un journal de la vie de cet ancien serviteur du Christ, John Gratton suite, le texte en bleu clair ou en bleu clair gras peut être cliqué pour un renvoi aux Écritures ou pour des détails dans les écrits. À cette réunion, une femme fut convaincue, elle vivait avec ses parents à Tideswell. Ils souhaitaient vivement que je tienne une réunion chez eux, je m'y rendis donc, et beaucoup de gens se rassemblèrent dans le jardin. C'était une ville où j'avais autrefois été bien connue. Après que la réunion eut été quelque temps dans le silence, je fus poussée à me lever et à parler, ce que je continuai pendant environ 4 heures, mais mon visage avait tellement changé qu'un débat s'éleva parmi les gens. Étais-je vraiment John Gratton ou non? Pendant que je déclarais, une femme qui était baptiste me posa une question, j'y répondis de telle sorte à sa satisfaction qu'elle fut convaincue de la vérité. Le mari de cette femme était mugletonien, et lorsqu'il comprit qu'elle s'était faite quake, il lui dit qu'il écrirait à son prophète Mugleton pour me maudire, ce qu'il fit en effet. Alors Mugleton, par lettre, m'envoya sa malédiction, les mots n'en valent pas la peine d'être rapportés, mais en réponse je lui fis savoir que cela m'était indifférent. À cette réunion, les gens me regardaient avec insistance, je m'en étonnais, mais je perçus que leur attention se portait sur une bande de dentelle que j'avais au col. Cela me frappa, et j'en fus peiné, car depuis ma convincement jusqu'alors, je n'y avais pas prêté attention. À cette époque, les amis ne montraient aucun signe d'orgueil dans leur habillement. Je n'étais pas non plus satisfait de moi-même, car je vis que le Saint-Esprit ne permettait aucune superfluité, ni dans l'habillement ni dans quoi que ce soit d'autre, et sous l'effet de ce sentiment, je l'enlevai et ne la portai plus. Ma chère épouse non plus n'offrit jamais de la remettre, mais lorsqu'elle comprit que j'étais troublée d'avoir porté de la dentelle, elle l'ôta de toutes mes autres bandes, bien qu'elle ne fût pas alors convaincue de la vérité, quoiqu'elle le fût quelque temps après. Le fait que j'ai été convaincue astérisque fit beaucoup parler au loin, beaucoup de gens disputaient et s'entretenaient avec moi, et mes proches étaient très troublés. Ils auraient voulu que je m'abstienne de la conduite et du langage dans lesquels la vérité m'avait conduit, disant « Nous ne devons offenser personne. Je leur dis que ce sont les petits qui croient en Christ qu'il ne faut pas offenser. Mais malheur au monde, dit Christ notre Seigneur, car le monde s'offensa de lui sans juste cause, et ainsi fait-il de ses disciples, qui se livrent à faire sa volonté et à suivre l'impulsion et la conduite de son Saint-Esprit. Si la justice offense les méchants, à qui la faute ? Abel n'y pouvait rien lorsque Caïn le haïssait parce que ses œuvres étaient justes, et il plaisait à Dieu bien que Caïn fût offensé. De même, celui qui est né selon la chair est et s'offense jusqu'à ce jour de ceux qui sont nés selon l'esprit, et trouve étrange qu'ils ne courent pas avec eux dans leur voie charnelle, jusqu'au même excès de débauche, et ainsi ils disent du mal d'eux. Astérisque, être convaincu signifie être devenu certain de la voie requise pour le salut, non pas recevoir le salut lui-même. Presque tous ces nouveaux convaincus avaient auparavant été de pieux lecteurs de la Bible, professaient que Jésus est le Fils de Dieu, avaient été baptisés, assistaient aux offices des sectes, etc. Mais ils étaient tous encore captifs du péché et savaient qu'il devait y avoir un moyen de se libérer même du désir de péché. Lorsqu'ils entendirent proclamer la voie pour devenir purs, pour être affranchis du péché, leur cœur rendit témoignage à cette vérité. Ils se joignirent donc à d'autres cherchant à être libérés du péché, en attendant dans le silence d'entendre le Maître intérieur. Pour lui obéir et recevoir sa grâce transformatrice qui leur apprenait à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et comment mener une vie sobre, juste et pieuse dans leur monde d'alors, être rachetés de toute iniquité et purifiés, puis avoir un zèle pour les bonnes œuvres. Ce processus de la convincement à la pureté exigeait de continuer à travailler à leur salut au fil du temps avec crainte et tremblement. Parce qu'ils tremblaient en présence de l'Esprit de Dieu à l'œuvre dans leur cœur, leur montrant leurs péchés, les convainquant des secrets de leur cœur, ils tremblaient ou caquaient, ainsi furent-ils connus sous le nom de Quakers. Mais lorsque Christ dit « Malheur au monde à cause des scandales », il dit aussi « Il faut que les scandales arrivent, mais malheur à l'homme par qui ils arrivent. Or pourquoi les scandales arrivent-ils ? Afin que ceux qui sont éprouvés, pierre vivante, soient manifestés, et que ceux qui ne veulent pas prendre leur croix et se renier eux-mêmes soient aussi manifestés. Car à l'amitié du monde est inimitié contre Dieu, et si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Mais la cause est ici, les hommes non régénérés se reconnaissent à leurs fruits. Malheur aux faux prophètes, faux prêtres, faux professants et hypocrites, bien qu'ils marchassent en longues robes et sonnassent de la trompette lorsqu'ils faisaient l'aumône et priaient au coin des rues pour être vus des hommes et faisaient de longues prières par feinte. Pour tout cela, ils étaient orgueilleux et aimaient la première place dans la synagogue, les premières places au festin, les salutations sur les places publiques et être appelés par les hommes maîtres. Ils étaient cupides et dévoraient les maisons des veuves, ils donnaient la dîme de la mende, de l'aînesse et du cumin, mais omettaient la miséricorde, le jugement et la vérité, car ils n'étaient pas ce qu'ils prétendaient être. les Sodomiens offensèrent l'eau et tourmentèrent l'âme juste de celui qui avait accueilli les anges du Seigneur, et c'est pour cela qu'ils s'offensaient de lui. Mais malheur et misère tombèrent sur les méchants Sodomiens, tandis que l'eau fut délivrée. Jérusalem s'offensa de Jésus-Christ, venu sauver son peuple de ses péchés, mettre fin à la transgression et introduire une justice éternelle. Les Juifs le haïssaient sans cause, lui qui aurait voulu les rassembler, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, pour les sauver des oiseaux de proie du ciel, qui les auraient détruits entièrement. De même, Christ étend l'aile de sa puissance sur ceux qui sont rassemblés à lui, pour les sauver du prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le cœur des enfants de la désobéissance, ce lion rugissant qui rôde cherchant qui il pourra dévorer. Mais l'Église est en sécurité sous l'ombre du Seigneur, disant « Je me suis assise à son ombre avec un grand plaisir, et son fruit a été doux à mon goût, car tout y est bon, mais le fruit du malin est tout mauvais, âmé comme la mort, elle abscendait le fiel, et il en sera ainsi pour toujours. » Malheur et misère vinrent aussi sur Jérusalem, qui ne voulut pas être rassemblée ni sauvée, mais rejeta le saint et le juste, et préféra à lui un voleur et un meurtrier, comme ceux qui choisissent de servir le diable plutôt que Christ Jésus, le Seigneur de la vie et de la gloire. Je voyageai beaucoup, et tins des réunions dans plusieurs comtés, comme le Yorkshire, le Lincolnshire, le Nottinghamshire, le Staffordshire, le Cheshire et le Derbyshire, et beaucoup furent convaincus, et une grande joie, une grande allégresse, l'amour, l'unité et la concorde coulèrent parmi nous. Ma femme n'était pas encore convaincue. J'étais dans une grande tristesse à son sujet, et elle l'était aussi à mon égard, et elle disputait souvent avec moi, jusqu'à ce que nous pleurions tous deux, mais nous nous aimions toujours tendrement. Avant la seconde réunion dans ma maison, comme j'étais sur la route un soir, dans une grande lourdeur à cause de ma femme, la parole du Seigneur me vint, disant « Je te donnerai ta femme », ce dont je fus réjoui et consolé. Car je crus que cela s'accomplirait bientôt, et ce fut en effet le cas, peu après elle fut convaincue, béni soit le Seigneur. À la réunion suivante vint un certain William Yardley, et après la réunion ma femme eut une longue discussion avec lui, mais enfin la vérité jaillit en elle, et en lui aussi, si bien qu'il vint vers elle et dit « Anne, l'amour de Dieu est pour toi », ce qu'elle sentit, elle se livra à lui obéir, et en fut heureuse. Alors nos jours devinrent plus joyeux, et nous vécûmes ensuite ensemble environ 35 ans, et beaucoup d'amis vinrent nous voir, ce qui nous réjouissait. Nous avions une maison ouverte et des cœurs ouverts pour accueillir le peuple du Seigneur, et nous étions heureux qu'il nous eût, dans sa miséricorde, rendu aptes et capables d'être utiles à son peuple, et mon commerce prospéra, car nous avions faveur auprès de Dieu et des hommes. J'étais très préoccupé de prêcher l'Évangile de notre Seigneur, et je parcourais la région pour les réunions. Beaucoup de gens furent convaincus en divers lieux, à Darbydale, Matlockside, dans la paroisse d'Achauvé à Brampton, Arsdale, et dans le Raypic. Nous eûmes de nombreuses réunions précieuses, car nous avions la liberté de nous réunir dans les maisons, et des réunions furent établies. Beaucoup de mes propres parents furent convaincus et moururent dans la vérité. J'ai des raisons d'espérer que mon grand-père âgé, qui avait environ 90 ans, fut convaincu et se réjouit de la vérité dans sa vieillesse, disant à ma mère « C'est ce que j'ai cherché tous les jours de ma vie, voulant dire la vérité. » Après quelque temps, j'allai à Derby, et y tins quelques réunions ainsi qu'à Little Chester, et beaucoup de baptistes furent convaincus dans le Cheshire. Ensuite, il me fut demandé d'aller visiter les églises du Nottinghamshire. Je me rendis donc à Nottingham, et trouvai William Smith alité malade, homme excellent, vivant fidèle, et vaillant ministre du Christ. Il me fut révélé qu'il serait enlevé à ce moment-là, comme je le dis à Thomas Rayfield la veille au soir. Le lendemain, après la réunion, j'allai le voir et restai quelque temps avec lui. Oh, il était dans un doux état, plein d'amour, la vie et la paix abondaient en lui. Je le laissai dans une grande unité, tendresse et amour, et je partis pour Mansfield, et il mourut en quelques jours, laissant derrière lui une bonne odeur. Son souvenir m'est doux, et ses contrées eurent une grande perte en le perdant. De là j'allai à Skegby, Rocknell, puis je rentrai chez moi. Après cela, il plut au Seigneur de me mettre à cœur de repartir au loin, dans le Nottinghamshire et le Leicestershire, ce que j'étais très réticent à faire, mais je n'osais pas ne pas y aller. Je me rendis à la réunion de Tupton le cinquième jour, et à Boulsauvé le sixième, où nous eûmes quelques troubles, puis le septième jour à Chesterfield, où nous eûmes une réunion glorieuse et quelques convincements. Oh, la puissance du Seigneur était au-dessus de tout. De là je voulais rentrer chez moi, mais je n'en eus pas la permission du Seigneur, et je pleurai abondamment. J'allai dans le Nottinghamshire, et le premier jour j'eus une réunion à Worksop, dans une grange que William Bailey avait louée. Comme sa femme chevauchait près de Worksop, elle tomba de cheval et se cassa la jambe, et son mari descendit de Londres pour la voir. La trouvant inapte à être déplacée, il loua une maison pour un an, dans laquelle les amis tinrent alors leur réunion. J'allai la voir, et j'eus une réunion là le premier jour, et tandis que j'étais en prière, les officiers avec beaucoup d'autres montèrent dans la réunion en invectivant et en fulminant, faisant un grand bruit comme s'ils avaient voulu nous effrayer jusqu'à ce qu'ils s'approchèrent de moi. Et au moment même où ils arrivaient à moi, la puissance du Seigneur augmenta, ma voix s'éleva fortement, et ils s'arrêtèrent tous et reculèrent comme des hommes frappés, et s'en allèrent tout à fait, n'ayant pas le pouvoir de nous faire aucun mal. Nous eûmes une réunion précieuse, et nous nous retirâmes consolés. Le lendemain, j'étais à une bonne réunion à Bliss, et une autre le soir, à celle-ci vint John Seaton, l'un des principaux hommes de cette ville, qui fut convaincu et se montra fidèle à la vérité jusqu'au jour de sa mort. Beaucoup d'autres, dans cette ville et aux alentours, furent convaincus de la vérité et s'y tinrent noblement pendant les temps de souffrance, fidèles jusqu'à la fin. Le jour suivant, j'allai à une réunion dans une ville appelée Ettelstall, dans la forêt, où j'eus une bonne réunion. Beaucoup y vinrent, et certains furent convaincus, en particulier John Kent, qui reçut la vérité. J'allai à une réunion à Kersall, et le prêtre de la ville vint et fit un grand bruit derrière moi pendant un moment pour m'arrêter, mais je persistai, et j'étais peiné qu'il troublât la réunion, car elle était dans un état précieux. Mais enfin je sentis que je devais m'arrêter, et je me tournai vers lui. Mais lui, voulant se disculper de prêcher pour de l'argent, dit qu'il n'avait pas besoin de prêcher, à moins qu'il ne le souhaitât, car il avait un domaine pour vivre s'il ne prêchait pas. Alors je dis au peuple de prendre note, cet homme est son propre maître et n'a pas besoin de prêcher, à moins qu'il ne le veuille, mais l'apôtre Paul et ce que Dieu envoyait n'étaient pas ainsi. Car Paul disait, « La nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Ainsi, par ses propres paroles, je montrai au prêtre qu'il n'était pas ministre du Christ, le Christ n'était pas son Seigneur et Maître, puisqu'il pouvait faire ce qu'il voulait, prêcher ou ne pas prêcher. Il fut donc rendu manifeste dévoilé et s'en alla dans une grande rage, et sa compagnie partit avec lui. Le Seigneur fut puissamment avec nous ce jour-là, et nous eûmes une bonne réunion, et nous fûmes doucement consolés, et nous ne reçûmes aucun mal des hommes. Puis j'allai à Akring, et j'eus une réunion à laquelle vint John Allen. Il fut convaincu et merveilleusement ébranlé, mais bien qu'il tremblât, il se réjouissait et s'écria, « Il est venu, il est venu, il est venu !» Après quoi, il rentra chez lui et rencontra des professants des environs, et disputa fortement avec eux. Puis il prit sa Bible et parcourut la ville, mais il courut avant d'être envoyé et en subit quelques dommages. Alors ses proches l'envoyèrent vers moi, et lorsqu'il vint chez moi et s'entretint avec moi, il se rétablit très bien, si bien qu'en quelques jours il rentra chez lui. Mais la famille et les professants autour de lui s'acharnèrent de nouveau contre lui, et zélé, il discuta avec eux jusqu'à se faire de nouveau du tort. Alors je pris mon cheval, j'allai le chercher et l'emmener chez son oncle à Bliss, où je le laissai. Il se porta bien et se montra un ami honnête, et après quelque temps il alla à Londres et fut arrêté à une réunion avec sa femme. Elle alla avec lui devant le maire qui, par pitié pour sa femme, ne l'envoya pas en prison avec les autres amis, ce à quoi il s'était librement résigné, et il fut peiné que sa femme fût venue sous les yeux du maire, et il fut très sincère, je l'espère, tant qu'il vécut. Le lendemain, j'allai à une réunion à Hoxton, qui était très grande. Je n'avais jamais vu pareille apparence auparavant, la vérité vivante traversa toute la réunion. Beaucoup furent touchés, et la puissance du Seigneur vint sur tous pour la joie et la consolation de beaucoup. J'étais aussi à une réunion à Longclauson, dans la vallée de Beeve, et il y avait là un jeune homme, nommé William Marriott, plein de vie. Et Sarah Brown, Elizabeth Doubleday et Edward Allam, et les amis furent consolés ensemble. Le lendemain, j'allai à une réunion à Robbie, et le jour suivant, étant le premier jour, j'allai à une réunion à Crowston. Là, un homme nommé Lord Ross, ainsi appelé, vint à l'église, et notre réunion était près d'elle. Les officiers et d'autres vinrent pour disperser la réunion avec un grand bruit, comme s'ils voulaient nous effrayer tous. Comme ils montaient l'entrée, je tournai mon visage vers eux pendant que je déclarais la vérité. Le Seigneur me donna de parler avec hardiesse, et sa puissance vint sur eux, mais avant qu'ils ne vinssent jusqu'à moi, ils se turent et reculèrent, comme des hommes frappés dans leur cœur. Peu après, ils s'en allèrent et nous laissèrent, et nous eûmes une bonne réunion, loué soit le Seigneur à jamais, dont la puissance était au-dessus de tout. Le lendemain, j'allai à une réunion à Broughton, chez John Wilsford, où un baptiste vint en secret pour entendre. Il fut touché et reconnut la vérité de ce que je disais, comme John me le rapporta ensuite. Le lendemain, j'arrivai à Nottingham, et j'y eus une bonne réunion le troisième jour, les amis étaient heureux de me voir, et nous fûmes consolés ensemble. Mais un ami vint me ramener chez moi, car ma femme était très faible et plus susceptible de mourir que de vivre, pensant qu'elle vivrait à peine assez pour me revoir. Je m'hâtai de rentrer le quatrième jour et trouvai ma femme très faible, et j'étais moi-même très épuisée, mais grâce soit rendue à Dieu, il la releva de nouveau. Ma mère était avec elle, mais mon père n'était pas convaincu. Il avait entendu dire que j'avais été au loin, et comment les choses se passaient à la maison, Il pensa donc venir me réprimander d'avoir laissé ma femme dans cet état. Mais il y avait une réunion chez moi le premier jour suivant, et mon père n'arriva que ce matin-là, alors que quelques amis étaient arrivés avant lui. Il décida donc de passer la nuit et différa sa confrontation avec moi afin d'éviter une scène devant les amis. Lorsque la réunion fut assemblée, après quelque temps je parlai. Il y avait quelques notables de la ville, et je vis leurs larmes couler sur leurs joues, et mon cher père fut si brisé qu'il cria à haute voix, dans une grande joie de cœur, tout en tremblant. Alors je me tus un moment, et mon père vint à moi, devant tout le peuple, en pleurant, me prit dans ses bras et m'embrassa. Le lendemain, nous marchâmes seuls et eûmes une longue discussion, jusqu'à ce qu'il se remît à pleurer et me demanda de m'abstenir et de ne plus rien dire, après quoi nous nous séparâmes. Il m'aimait beaucoup, mais il ne vint jamais à une obéissance ouverte à la vérité. Je restai quelque temps à la maison. Et oh, la paix qui coulait dans mon cœur, comme Christ l'a promise, non pas comme le monde donne, ce qui crie paix, paix alors qu'aucune paix n'est réellement éprouvée. Mais louange au Dieu de ma vie, sa paix, il me l'a donnée, à moi et des milliers en ces jours, cette paix que le monde ne connaît pas et qu'il ne peut nous ôter, gloire au très haut à jamais. Oh, l'amour et la vie qui coulent ici et jaillissent de la source des eaux vives, en qui sont toutes nos sources fraîches. Sens-le, lecteur, en toi-même. Ne l'as-tu pas vu jaillir de ton cœur de pierre, lorsque Christ, le Moïse spirituel, l'a frappé du bâton de Dieu dans sa main? Une épître aux amis, mes chers amis, j'ai à cœur de vous écrire quelques lignes avant de poursuivre. N'avez-vous pas trouvé, selon votre mesure, que ce Christ de Dieu est tel que je le dis? Oh, chérissez cette vie immortelle qui maintenant s'éveille en vous, et louez le Seigneur pour sa miséricorde. Vivez dans cette vie qui délivre de la mort, demeurez-y, et votre joie sera parfaite. Le monde connaît peu votre joie, connaît peu votre paix. Bien que vous soyez dans la tristesse, vous vous réjouissez pourtant toujours. Bien que vous combattiez chaque jour, vous vivez néanmoins en paix. Vivez dans la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Cette paix garde vos cœurs et vos pensées dans l'unité, dans cette lumière de vie qui maintenant brille dans vos cœurs, afin que vous ne tombiez jamais. Gardez toujours l'humilité selon votre mesure, et veillez à ce que nul ne regarde au dehors, ni ne s'attache à quoi que ce soit, sinon au Seigneur, qui seul doit être considéré en tout, par tous et au-dessus de tout, et suivi, obéi et en qui l'on doit se confier. Chers amis, demeurez dans la vie innocente, elle vous unira, animera chaque membre, vous vivifiera tous et vous rendra savoureux, on récoltera un fruit de saison, et vous serez une bonne odeur les uns pour les autres, cela vous nourrira, vos forces seront renouvelées chaque jour, l'accroissement de Dieu sera éprouvé, et vous sentirez quotidiennement son amour meilleur que le vin, pour réjouir vos cœurs et surpasser l'amour du monde. Cela réjouira vos âmes dans les temps d'adversité, car de grandes eaux ne peuvent éteindre cet amour. C'est pourquoi, chers amis, gardez tous vos esprits fermement fixés sur le Seigneur, et prenez garde de ne pas perdre les choses que vous avez reçues de lui. Mais attendez tous, selon votre mesure, du Seigneur seul, et n'attendez rien de l'homme, car il ne doit pas être compté, ne pensez pas vivre de la manne que d'autres ont recueillie, mais venez vous aussi et soyez diligents. Prenez garde que le Seigneur ne vous appelle pas quand vous vous êtes égarés au loin en pensée, occupés de vos propres affaires. Demeurez dans votre habitation, et le Seigneur vous gardera comme la prunelle de son œil. Rien ne vous fera de mal si vous êtes des imitateurs de ce qui est bon. Vivez tous dans la vraie lumière et demeurez-y, par elle, tous les dangers quels qu'ils soient vous seront mis à nu et découverts, et tous les faux esprits seront vus et éprouvés dans la vraie lumière, et vous connaîtrez clairement la pensée de Dieu. Et si vous demeurez tous ici et y vivez, vous trouverez la sécurité, et l'ennemi ne pourra pas vous toucher. C'est pourquoi, bien-aimés amis, demeurez dans la lumière dont vous avez été convaincus et par laquelle vous avez été convertis et tournés vers le Seigneur. Demeurez-y, car elle vous maintient vraiment humble, dans la sincérité et la vérité, et ainsi toute humilité feinte, toute prétention et tous professants extérieurs seront manifestés, et la force de vos ennemis sera aussi clairement vue, n'étant que faiblesse. Ne vous empressez pas de répondre aux questions posées par les opposants à la vérité du Seigneur, mais tenez-vous simplement dans l'obéissance au Seigneur et soyez comme des fous, afin que la vraie sagesse soit préférée, ainsi la volonté du Seigneur sera faite, que leur volonté soit satisfaite ou non. Votre paix sera comme un fleuve, si vous écoutez le Seigneur, et la cause du Seigneur sera plaidée par lui-même avec toute chair, et son relèvement sera la dispersion de ses ennemis, car la destruction de Babylone viendra sur elle. Par l'éclat de sa venue et par le souffle de ses lèvres, Babylone sera entièrement détruite, la bouche du Seigneur l'a dit. Ainsi, mes chers amis, demeurez tous dans votre force, et sentez le bras de sa puissance étendu pour vous porter, afin que vous connaissiez chaque jour la victoire, et louiez le Seigneur dans son propre sanctuaire, et déclariez ses œuvres merveilleuses. car c'est d'une main forte qu'il nous a tirés de l'angoisse et de l'amertume d'esprit où nous étions autrefois, en raison de notre cruel esclavage au péché. Si le Seigneur n'était pas venu nous visiter, nous serions encore en servitude aujourd'hui, car nul autre ne pouvait nous délivrer, et il n'y avait personne pour intercéder pour nous. C'est pourquoi son propre bras nous a porté le salut. Demeurez tous dans cette grâce qui sauve, qui brise les rochers, et la grâce vous a souvent brisé jusqu'en morceaux, et a fait trembler votre maison terrestre, et vous a rempli d'effroi. Souvenez-vous de ses œuvres puissantes dans l'abîme, et recevez la loi de sa bouche, écoutez-la et mettez-la en pratique. Voici, elle est près de vous, dans votre cœur et dans votre bouche, afin que vous ne vous en écartiez pas. Chers amis, veillez avec diligence, car dans cette fournaise vous serez éprouvés. Mais bien que vous soyez autorisés à être tentés, le Seigneur ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre mesure. Demeurez donc tous dans votre mesure, là est votre sécurité. Ma grâce te suffit, a dit le Seigneur, ne craignez donc pas votre adversaire, car il ne peut vous faire de mal, si vous craignez toujours le Seigneur votre Dieu et vivez dans son conseil, par lequel vos cœurs seront gardés comme des demeures pures où son Saint-Esprit peut habiter. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. De la part de votre cher ami et compagnon d'œuvre dans le travail de l'Évangile, John Gratton III du 8e mois, 1673. Les baptistes furent mécontents de moi lorsqu'ils virent qu'il n'y avait aucun espoir que je retourne vers eux, et ils disputaient souvent avec moi, car de grandes disputes eurent lieu à Moniach entre eux et les amis. Mais le Seigneur avait ouvert mon intelligence et m'avait aussi ouvert les Saintes Écritures. J'écrivis un petit livre au sujet du baptême, dans lequel je montrais qu'aucun homme n'a commission de Christ pour baptiser d'eau depuis que la course de Jean a été achevée et son ministère accompli, faisant apparaître que les baptistes baptisaient sans aucun commandement de Christ. En ce temps-là, la vérité prospéra dans le pays du Pic, dans le Derbyshire, et la parole de Dieu croissait et se multipliait, la parole que Dieu envoya aux enfants d'Israël, annonçant la paix par Jésus-Christ qui est Seigneur de tous. Cette parole, dit Pierre, qui a été publiée dans toute la Judée, et qui a commencé en Galilée après le baptême que Jean prêchait, cette parole, Pierre la prêcha aux gentils, à savoir, Christ Jésus Seigneur de tous, par qui est l'unique voie pour venir à Dieu. Car nul ne peut venir au Père, dit Christ, si ce n'est par moi, il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné par lequel on puisse être sauvé sinon par Jésus-Christ, car il est la source de la vie éternelle, ouverte à tous pour s'y laver et être purifié, et à cette fin il a répandu son esprit sur toute chair afin qu'il ait part en lui, et plus nous sommes lavés purement, quoi que ce soit dans une grande tribulation, plus blanches seront nos robes. Je vins alors à connaître ce qu'est la cité de Dieu, dont j'avais lu dans l'Apocalypse, à savoir, l'Église véritable, qui n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour y briller, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau en est la lumière. Dans cette lumière, les nations de ceux qui sont sauvés doivent marcher. C'est là que les rois de la terre apporteront leur gloire et leur honneur, les portes de cette cité ne seront point fermées le jour, et il n'y aura pas de nuit là, nul n'y entrera s'il est souillé, ni ceux qui commettent l'abomination ou le mensonge, mais seulement ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Après cela, je retournai à Hoxton, où les dénonciateurs étaient très actifs, les officiers vinrent et, tandis que je parlais dans la puissance de Dieu, l'un me somma au nom du roi de descendre et de me taire. Mais je lui commandai au nom du roi des rois de se taire, et je lui demandai aussi s'il venait au nom du roi, il dit que oui. Alors je demandai, est-ce lui qui t'a envoyé ? Sait-il que nous sommes réunis ? Et il répondit non. Je dis alors, comment peux-tu venir au nom du roi s'il ne t'a pas envoyé ? Alors l'homme se détourna de moi et s'en alla, emmenant ceux qui étaient venus avec lui. Nous eûmes une réunion précieuse ce jour-là. Après cela, j'allai à Great Markham, où l'on nous jeta des pierres tandis que nous traversions les rues à cheval, et l'on amena à la réunion un homme muni de pourris, à ce que je supposais, car il vint se tenir juste devant mon visage et les lança vers moi, mais aucun ne me toucha. Une autre fois, j'allai encore à Markham, et le prêtre vint avec les officiers de la ville, les envoya pour disperser la réunion, tandis qu'ils restaient à la porte. Les officiers entrèrent, et les amis leur firent place. Ils s'assirent et écoutèrent très tranquillement, car je déclarais dans la puissance céleste du Seigneur avant leur entrée, et ils restèrent jusqu'à la fin de la réunion sans causer de trouble, mais le prêtre était resté dehors à la porte pour voir la réunion dispersée, et lorsqu'ils échouèrent à la disperser, le prêtre entra en fureur. Il dit qu'il les avait amenés pour disperser la réunion et qu'il n'avait fait que rester et écouter. Alors le prêtre s'en alla en colère, et nous partîmes ensuite, doucement rafraîchis et consolés. Je parcourus la région et tins de nombreuses réunions dans le Rye Peak, le Scarsdale, le Staffordshire, le Cheshire, le Lancashire et le Yorkshire, et la vérité prospéra glorieusement. J'eus aussi des réunions pour la première fois en des lieux tels que Ashford, Longson, Tideswell, Braddo, Grinlow, Baslow, Matlock, Il y avait eu un convincement à Brado et dans les environs du pic, concernant notamment Jonathan Fisher, sa femme et d'autres. Nous y fixâmes des réunions, et tant de gens vinrent que la maison ne pouvait les contenir. Je sortis donc dans la rue, sous un grand arbre, sur la place du marché entourée de murs, et je montai au sommet du mur pour parler au peuple. Mais une bande de rustres commença à nous lapider, et les pierres volaient autour de ma tête et claquaient dans les arbres, pourtant aucune ne me toucha. Une grosse pierre frappa et blessa une femme qui se trouvait assise près de moi. Les gens vinrent et la portèrent dans une maison, mais elle se rétablit après quelque temps. Enfin un homme vint, blâmant ceux qui nous jetaient des pierres, et entra dans la foule, mais après être resté un moment debout, il se baissa pour ramasser une pierre afin de me la lancer, à ce qu'on supposa. L'un de ses voisins se tenait à côté, qui, depuis quelque temps, était très attentif. Lorsqu'il vit l'homme, qui avait blâmé les autres, prêt à jeter une pierre, il le frappa sur l'oreille, de sorte que la pierre tomba de sa main et ne fut pas lancée contre moi. Celui qui frappa l'autre fut convaincu ce jour-là, devint un homme honnête et le demeura jusqu'à sa mort, comme je l'ai entendu. Enfin Henry Jackson et Henry Roebuck vinrent à la réunion et montèrent aussi au sommet du mur, et tandis que Henry Jackson déclarait, un groupe de jeunes hommes vint et poussa violemment les amis du mur. Henry Jackson était lourd, et ils eurent du mal à le pousser en bas du mur, mais ils y parvinrent. Je descendis et parlai à l'un d'eux, lui demandant pourquoi il était si grossier. Il répondit que s'il nous laissait tranquilles, toute la ville deviendrait quake. Je me rendis à une partie du mur qui était la plus proche de la plus grande partie de la foule, et, y montant, je m'agenouillai au sommet du mur devant leur visage. Toute crainte des pierres ou des hommes avait disparu, et je priai le Seigneur, avec l'aide de son Saint-Esprit, d'une voix forte, et la puissance du Seigneur vint sur tous, et les gens s'abattirent intérieurement, se tinrent tranquilles, et devinrent comme un peuple différent. Henry Jackson eut ensuite un bon service parmi eux, et notre réunion se termina dans une grande douceur. En sortant de la ville à cheval, certains nous bénirent et parurent très amicaux et affectueux. Je ne fus plus jamais troublé après cela, bien que depuis j'ai assisté à de nombreuses réunions là-bas, chez Jonathan Fisher, qui vécut et mourut à Mionnet, laissant derrière lui une bonne odeur et sa mémoire mais douce. Beaucoup y furent convaincus, et à Slack Roll aussi. Nous allions parfois à travers Elistmoor et tenions des réunions à Totley et Dore, où certains furent convaincus, et près de Beechief, où vivait le juge Pegg, mais il ne se soucia jamais de nous troubler. La plupart de nos réunions étaient en plein air, mais l'une eut lieu dans le Roll, et plusieurs dans une grande grange. Un premier jour, nous en eûmes une près de Beechief à l'arrière d'une maison dans une ruelle, et beaucoup y vinrent. Pendant que je prêchais, un haut connétable nommé John Stone vint avec des officiers et une troupe à cheval, et le connétable m'intima au nom du roi de maintenir la paix du roi. Mais la puissance et la présence du Seigneur étaient avec nous, et je continuai à parler hardiment au nom du Seigneur. Il envoya l'un des siens en lui disant d'aller me faire sortir. L'homme vint, posa la main sur moi et trembla, mais n'eut pas le pouvoir de m'emmener. Il resta près de moi tandis que je continuais mon témoignage. Puis il me quitta et traversa la réunion sans moi. Lorsqu'il rejoignit son maître, celui-ci lui demanda « Pourquoi ne l'as-tu pas amené ?» Je n'entendis pas la réponse qu'il fit. Alors John Stone sortit sa plume, son encre et un petit livre, et appela un ami pour l'assister. L'ami alla vers lui pour voir ce qu'il écrivait et dit que la main de Stone tremblait au point qu'il ne pouvait pas écrire. Après avoir un peu soulagé mon esprit, je me tus et cédai la parole à Henry Jackson, mon frère aîné, qui rendit un bon service ce jour-là. Les officiers étaient très mal à l'aise, et John Stone s'éloigna à cheval, en colère, comme s'il voulait aller chercher davantage de pouvoir auprès du juge, mais la réunion continua très bien. Il resta, je suppose, plus d'une heure lorsqu'il revint. Il avait aussi peu d'autorité sur nous qu'auparavant, car le peuple était si touché et fortifié qu'il osa lui parler hardiment, et lui dit qu'il serait plus approprié pour lui d'aller fouiller les cabarets et de s'occuper des ivrognes et des mauvaises gens, plutôt que de venir là de cette manière troubler d'honnêtes gens tels que nous. Il s'agita et fulmina un moment, puis finit par donner de l'éperon à son cheval et s'en alla, emmenant toute sa troupe. Ainsi nous eûmes un temps précieux, et il n'eut aucun pouvoir pour nous ébranler. Peu après, le haut connétable mourut. Certains s'en allèrent peu après l'arrivée des officiers, mais ils ont été pauvres depuis, tandis que le Seigneur a béni les fidèles en toutes choses, grâce lui soit rendue à jamais. Il était avec nous de jour en jour et de lieu en lieu, et ne permit à aucune arme ni à aucun instrument méchant de me nuire, où que j'aille. Béni soit son saint nom à jamais. Une autre fois, j'allai à une réunion dans une vieille maison près du terrain communal de Whitwell, et les officiers y vinrent, mais je déclarai la sainte vérité au milieu d'eux. Au bout d'un moment, ils sortirent, à ce que je pensais, pour se concerter sur ce qu'il fallait faire, et j'entendis que l'un disait à l'autre, « Ils ne parlent presque de rien d'autre que de l'Écriture, et ils n'étaient pas disposés à nous troubler, et au bout d'un moment ils s'en allèrent. Le Seigneur était avec nous et nous donna une bonne réunion, louange lui soit rendue à jamais. » Je fus invité à une réunion non loin de Newcastle-on-the-Lyne, où je me rendis. À mon arrivée, la maison était trop petite pour contenir les nombreux venus. William Yardley était. Ainsi, William et moi nous assîmes dans la maison, mais le salon et les autres pièces étaient remplis de monde, et un homme de Newcastle était venu exprès pour être dénonciateur contre cette réunion. Il entra dans une pièce annexe où se trouvaient beaucoup de gens. La réunion étant rassemblée, je sentis le Seigneur avec nous, il me donna de parler, et ma voix était perçante, de sorte que tous ceux des autres pièces entendirent clairement. Ce dénonciateur prit scandale à certaines paroles que je prononçais, mais c'était un sombre ignorant, comme le sont tous les dénonciateurs, autrement il ne serait pas dénonciateur, pour nuire au peuple du Seigneur à cause de son obéissance. Son offense fut si grande qu'il était agité et troubla les gens qui se trouvaient dans la pièce avec lui, pourtant il resta tandis que William Yardley continuait à déclarer à la réunion. Je demeurai assis en silence, attendant le Seigneur, et il lui plut de me montrer qu'il y avait, dans une autre pièce, un homme qui avait pris offense à certaines paroles que j'avais prononcées. Il me montra les paroles, et je m'en souvins bien qu'aucune créature ne m'eût rien dit et que je n'eusse pas vu l'homme, mais le Seigneur me l'avait si clairement montré que lorsque William Yardley eut fini de parler, je me levai de nouveau et appelai l'homme, disant, « Qui que tu sois, toi qui es offensé par ces paroles que je répétais alors, puis je parlai pleinement à leur sujet et les expliquai, les rendant claires et faciles à comprendre, montrant que les paroles que j'avais dites étaient des paroles de vérité et de justice. » L'homme m'entendit, fut satisfait, se leva et s'en alla tranquillement. Peu après la fin de la réunion, les gens qui se trouvaient dans cette pièce avec l'homme mentionné ci-dessus vinrent me demander qui me l'avait dit. Je leur répondis, « Aucun homme ne me l'a dit », et ils s'étonnèrent alors que je puisse le savoir si pleinement et l'exposer si clairement. Ainsi Dieu eut la gloire, et l'homme n'eut pas le pouvoir de nous nuire, il s'en alla et je ne le revis plus. Ainsi fûmes-nous délivrés des méchants, de sorte qu'ils n'obtinrent pas leur proie sur les justes qui se confiaient en Dieu. Et c'est à cette fin que j'écris ces choses, afin que ceux qui craignent et aiment Dieu mettent leur confiance en lui, lui obéissent, soient vaillants pour son nom et pour la vérité, et ne craignent pas l'homme dont le souffle est dans ses narines, qui est ici aujourd'hui et parti demain. Après cela, je retournai à une réunion à Bliss, et nous nous rassemblâmes au bord de la grande route, car les portes de la maison de réunion étaient verrouillées, et nous en étions tenus dehors. Les officiers, qui avaient fermé la maison de réunion, surveillaient par crainte que les dénonciateurs ne viennent. Et lorsque notre réunion fut terminée et que tous étaient silencieux, prêts à se séparer, les officiers s'approchèrent de nous et s'en allèrent avec nous comme s'ils nous avaient dispersés. Mais ils en conduisirent quelques-uns devant un juge et lui dirent que la réunion était silencieuse, ainsi les amis ne furent pas amendés, et les officiers ne furent pas soumis à la condamnation de Dieu. Les officiers prirent délibérément cette voie pour se sauver eux-mêmes et sauver les amis aussi. Nous eûmes beaucoup de bonnes réunions à Baslow, jusqu'à ce qu'enfin ils jetèrent Hugh Maslen en prison à Derby. Et que George Ely et la femme de Hugh Maslen moururent. Un jour de réunion, deux hommes vinrent pour être des informateurs et restèrent tranquillement pendant toute la réunion, mais ensuite ils allèrent trouver le juge de Rylow pour dénoncer et ils voulaient un mandat pour saisir nos biens. Mais il fut mécontent et sévère avec eux et leur dit de prendre garde à eux-mêmes, car s'ils découvraient qu'ils avaient juré faussement et s'ils les surprenaient jamais dans un mensonge, ou à peu près, il leur ferait couper les oreilles, ce qui les intimida tant qu'ils s'en allèrent et ne nous inquiétèrent plus. Après cela, le prêtre de cette ville se fâcha et me lança par écrit un défi de disputer avec moi sur trois points. Premièrement, il disait qu'il n'y avait plus de révélation de nos jours. Deuxièmement, qu'aucun homme n'avait l'Esprit de Dieu en lui de nos jours. Troisièmement, que si j'avais l'Esprit de Dieu, je pourrais lire dans un livre qu'il avait qui était en grec. Il fixa un jour et un lieu de rencontre, et quand le jour arriva, je le rencontrai dans un enclos fermé chez un frère Chapman, à Baslow, un homme civil, et beaucoup de gens de diverses sortes étaient là. Quand j'eus montré l'aveuglement du prêtre au sujet de la révélation, il mit son livre dans ma main et dit, « Si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, lisez dans ce livre. » Je le pris donc et le tins jusqu'à ce qu'il eût fini de se vanter vainement dans son discours au peuple, puis il voulut me reprendre le livre. « Non, dis-je, vous me l'avez donné pour lire, voyons d'abord si je lirai ou non. » Alors je pris ma Bible et lus les Écritures au peuple, et je leur montrai comment elles parlaient tout à fait à l'opposé du prêtre, et le prêtre tout à fait à l'opposé des Saintes Écritures, lesquelles disent que l'Esprit de Dieu est donné à tous mais pas à tous de la même manière, à l'un est donné le don des langues, à l'autre l'interprétation, certains ont reçu des dons pour les miracles mais pas tous, certains prophétisent et prêchent l'Évangile, mais la manifestation de l'Esprit est donnée à chaque homme pour l'utilité commune. Je lus l'Écriture claire, mais ils ne savaient pas que c'était l'Écriture, et il parlait contre jusqu'à ce que quelqu'un qui se tenait là lui dise « C'est l'Écriture, homme, si bien qu'il fut grandement méprisé. » Et quand il vit qu'il s'était plongé dans une grande quantité d'erreurs, il se tut et fut si exposé que Benjamin Acheton, le fils du juge, vint à lui, le prit par la manche et l'emmena tout à fait, me laissant avec le peuple. Il y avait beaucoup de baptistes, auxquels je parlai un moment, ainsi tout le peuple resta, sauf l'homme qui était parti avec le prêtre. Nous rendîmes un bon service à Dieu ce jour-là, et beaucoup furent consolés. La vérité prévalut et le peuple fut édifié, et la puissance du Seigneur était sur tous. Beaucoup parlèrent de cette dispute, et les prêtres de la contrée furent offensés contre ce prêtre pour m'avoir défié, et m'en envièrent davantage pour cela. Parce que notre réunion ammoniaque augmentait en nombre d'assistants, plusieurs prêtres, çà et là dans la contrée, furent en colère et très envieux, et moi et d'autres fûmes assignés par des procédures de session et d'assises. Le prêtre principal de notre paroisse, nommé Wilson, devait venir un premier jour dans notre ville pour donner ou vendre au peuple du pain et du vin. Ceux qui ne voulaient pas l'acheter de lui, il se servait des tribunaux pour les contraindre à payer, qu'ils en veuillent ou non, il faut qu'ils paient, car il a envoyé des agents et fait saisir mes biens par ordonnance de justice pour cela, bien que ni moi ni ma femme n'ayons jamais rien entendu de lui. La réunion devait avoir lieu dans notre ville ce jour-là, et le prêtre ordonna à l'un des marguilliers d'y aller de bonne heure ce matin-là, de passer à Ashford et d'emmener le constable chez le juge Acheton, un homme modéré, paisible, qui faisait beaucoup de bien en sa charge. Le constable eut un avis privé et se déroba, mais l'agent de Moniach alla comme le prêtre le lui avait ordonné, et pria le juge de lui accorder un mandat pour interrompre une réunion qui devait avoir lieu ce jour-là. « Comment, dit le juge, une réunion qui n'a pas eu lieu? Je n'accorderai aucun mandat pour une réunion qui n'est pas encore. Comment savez-vous qu'elle aura lieu? Si vous aviez vu la réunion, je vous aurais accordé un mandat, mais je ne vous en donnerai pas sur cette base, dit-il, ou à peu près comme on me l'a rapporté. » Ainsi l'agent revint sans mandat. Pourtant le prêtre Wilson vint, après avoir fait son ouvrage du matin, et fit appeler tous les agents de la ville, puis vint à notre réunion, et amena son clerc comme informateur, car ils auraient voulu rompre notre réunion en nous tirant et traînant dehors par force. Mais lorsqu'il nous avait tirés dehors et retournait à l'intérieur pour en faire sortir d'autres, nous les suivions de nouveau dedans, et tandis que certains étaient expulsés de force, d'autres entraient. Ainsi ils se fatiguèrent un moment, puis le prêtre s'en allait, mais étant rentré encore après qu'ils m'eurent traîné dehors, ma bouche s'ouvrit pour prêcher. Quand le prêtre entendit que j'avais commencé à prêcher, il se retourna et se tint tranquillement, et tout fut calme jusqu'à ce que j'eusse fini. Je parlai au prêtre devant le peuple, et lui dis, s'il se tenait pour notre berger, et que nous nous fussions égarés du troupeau du Christ, qu'il démontre que nous étions dans l'erreur, et je le prendrais amicalement, mais il dit qu'il ne venait pas prendre des brebis, mais des loups, et s'en alla. L'informateur demeura, et un ami se mit en prière, et loua le Seigneur, que sa présence fût avec nous. Pourtant cet informateur alla ensuite à la réunion mensuelle des juges, pour dénoncer cette réunion. Le haut constable habitait alors dans notre ville, c'était un homme aimant, amical, modéré, il était assis dans la pièce lorsque le clerc du prêtre vint dénoncer les amis, et il lui demanda pourquoi il venait là. Le clerc le lui dit, mais quand le haut constable comprit son affaire, il se leva et le mit dehors de la pièce, et le tint dehors de sorte qu'il ne put dénoncer ce jour-là. Il arriva peu après que cet informateur, qui était soldat de métier, tirait au mousquet, et l'arme éclata en morceaux, le blessant, et il échappa de peu à la mort. Il avoua qu'il croyait que c'était son lot d'être ainsi blessé pour ce qu'il avait fait aux Quakers, et qu'il en avait fini à dénoncer si possible, ainsi il ne nous inquiéta plus. Après cela, j'entendis que Wilson, le prêtre de notre paroisse, alla lui-même trouver les juges et voulait qu'on prît quelques mesures contre les Quakers pour faire cesser leur réunion, car il était ardent contre nous, et contre moi plus que tout, mais les juges le tinrent à distance, lui disant qu'ils ne voulaient pas avoir part à ruiner leurs voisins, et le prièrent de prendre quelque autre voie que celle des informateurs. Avant que ces choses n'arrivassent, j'étais dans une grande épreuve d'esprit, malgré quoi je m'abandonnais volontiers au service du Seigneur, quoique j'en souffrisse. Dans cette épreuve, je fus abaissé très bas, profondément plongé dans mon esprit. Cette bassesse d'esprit dura jusqu'à ce qu'à une réunion dans ma maison, il plût au Seigneur, dans sa miséricorde, de fondre puissamment sur moi, attendrissant grandement mon esprit, à la joie de mon âme. Alors mes larmes devinrent des larmes de joie, car je me réjouis dans le Seigneur, car sa miséricorde demeure à toujours, action de grâce lui soit rendue, lui qui ne m'a pas manqué en ce temps nécessaire, mais m'a soutenu et porté en ces jours de grande tribulation. En ce temps-là, les amis souffrirent profondément en beaucoup d'endroits, tant par des amendes que par des emprisonnements, de plus, les prêtres dans leur chair s'emportaient contre la vérité et contre nous. En ces jours périlleux, je montai à Londres, à la réunion annuelle, où je fus heureux de voir d'aussi valeureuses réunions. Le premier jour où j'assistai fut dans Gracious Street, si grande que la cour en était presque remplie. Dans cette réunion, la puissance du Seigneur était avec moi, et j'avais plus envie d'entendre les autres que d'être entendu moi-même, car il y avait là beaucoup d'hommes valeureux, qui depuis sont allés à leur repos. Mais la puissance du Seigneur vint sur moi, et enfin ma bouche s'ouvrit dans la démonstration du Saint-Esprit, à ma grande joie. L'après-midi, j'allai à la réunion au Bullen Mouse, qui était aussi très grande. Avant que j'y arrive, une femme, une amie, témoignait. Elle s'appelait Siophile Townsend, elle avait un témoignage vivant et puissant, et pourtant les gens grossiers près de la porte la méprisaient et parlaient d'elle de manière inconvenante. Je me frayai un passage et gagnai la galerie, et après qu'elle eut terminé, je pris la parole, et d'abord j'adressai mon discours à ces hommes indisciplinés, montrant qui, selon l'Écriture, n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Puis je dis, « Il est probable que vous pensez que Dieu sera meilleur que sa parole », et ils furent calmes et silencieux, car la puissance du Seigneur vint sur tous. Ensuite je parlai à l'assemblée, et oh, les courants de vie qui traversèrent les vivants ce jour-là. Le lendemain j'allai à une autre réunion, et à plusieurs réunions suivantes dans cette semaine, et ce fut un temps précieux pour les amis. Le septième jour, je rencontrai trois amis qui allaient voir Lodowick Mugleton, à savoir Robert Barclay, Patrick Livingston et William Hagg, et je les accompagnai, seulement je leur demandai de ne pas lui annoncer mon nom, car il n'avait reçu ma lettre critique que peu de temps auparavant. Quand nous arrivâmes, sa femme nous conduisit civilement dans une pièce, après quoi il descendit et nous regarda, disant, « Y a-t-il parmi vous un certain John Gratton ?» Mais Robert Barclay répondit, « Êtes-vous prophète et faut-il que vous demandiez ?» À cela Mugleton s'arrêta, disant, « Vous êtes des Écossais et je ne veux rien avoir à faire avec vous, car j'ai été récemment trompé par un Écossais, un certain John Swinton. » Ce J. Swinton était allé voir ce faux prophète, et en discourant avec lui, supposant Mugleton pauvre, Swinton lui donna une demi-guinée. Alors Mugleton le bénit, mais avant que Swinton ne s'en allât, il lui dit qu'il croyait qu'il était un faux prophète. Sur quoi Mugleton le maudit, c'est pourquoi il disait qu'il ne voulait pas avoir affaire avec des Écossais. Robert Barclay lui demanda alors pourquoi il ne rendait pas au homme sa guinée d'or. À cette question, il n'eut point de réponse. Alors je lui parlai, disant, « Je suis anglais, donc parlez avec moi. » Et je lui posai quelques questions. « Tous les Écossais doivent-ils souffrir pour l'offense d'un seul homme ? Si tant est qu'il eût été offensé, il dit qu'il s'en souciait peu. » Je lui dis que cela semblait contraire à la nature de Christ Jésus, qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Puis je lui demandai comment il était venu à son autorité de prophète, avait-il vu quelque chose ou entendu une voix ? Il répondit non. Alors je dis, « Vous n'avez rien pour autoriser ce que vous faites, si ce n'est ce que vous avez eu de John Reeve. » Il dit non, il ne l'avait pas. Alors je dis, « Je perçois que tout ce que vous avez pour ce que vous faites, ce n'est que la simple parole d'un homme. » Il répondit que c'était cela. Alors je dis, « Ne pensez-vous pas que ce serait une chose hasardeuse pour moi de risquer mon salut éternel sur la simple parole d'un homme ?» À cela il répondit, « Vous le devez, si vous voulez jamais être sauvé. » C'est étrange, dis-je, car je savais qu'il mentait et qu'il était un faux prophète, loué soit le Seigneur, qui me donna de le voir pleinement. Puis je lui demandai s'il avait le pouvoir de bénir un homme après l'avoir maudit. Il répondit non. Je dis quoi ? Vous avez le pouvoir de maudire un homme après l'avoir béni, et pourtant vous n'avez pas le pouvoir de le bénir après l'avoir maudit, pourvu que l'homme se repente. Il répondit non. Robert Barclay répondit alors que c'était étrange. S'il avait le pouvoir de maudire des hommes après les avoir bénis, alors, par la même règle, il devrait avoir le pouvoir de bénir des hommes après les avoir maudits. Mais il ne me connaissait toujours pas. Alors Patrick Livingston parla, disant, « J'étais avec une de vos disciples à Chesterfield, et elle m'a dit que je n'aurais plus jamais d'ouverture ni de source fraîche, mais, dit-il, je l'ai trouvée menteuse chaque jour. » Alors il dit, « T'a-t-elle maudit ?»« Oui, » répondit Patrick. « Eh bien, dit Mugleton, en confirmation de sa malédiction, je vous déclare maudit. » Puis un autre lui dit quelque chose, et il le maudit aussi, et quand il eut fini, il fut si content qu'il dit que cela lui faisait plus de bien que si un homme lui avait donné 40 shillings. Alors je lui demandai ce qu'il pensait de moi, et ce qui adviendrait de moi. Il répondit que si j'étais prudent, je pourrais bien m'en tirer, disant plusieurs fois, « Si vous êtes prudent, tout ira bien pour vous à la fin. » Alors je désirais que les amis témoignent que ce faux prophète a dit qu'il n'avait pas le pouvoir de bénir un homme après l'avoir maudit. Et pourtant, m'ayant maudit avant même de me voir, il me dit maintenant que si je suis prudent, je pourrais bien m'en tirer, et que tout ira bien pour moi à la fin. « Oh, dis-je, quel faux prophète êtes-vous ? » Et alors je lui dis mon nom, mais quand il l'entendit, il fut tristement confondu et ne me fit plus aucune réponse. Ainsi nous le quittâmes et nous en allâmes. J'écris ceci de mémoire, en un récit détaillé, afin qu'on voie combien clairement il a été manifesté comme trompeur, pour que d'autres se gardent de lui, désirant qu'il plaise au Seigneur de délivrer toute âme au cœur honnête des appâts, pièges, ruses et stratagèmes de l'ennemi de tout le genre humain. Peu après cela, comme je chevauchais à travers Islington, je regardais la ville, me souvenant avec reconnaissance du bon temps que j'y avais passé, et il me fut manifeste que je rencontrerais quelque épreuve avant de rentrer chez moi, pour l'Évangile. Néanmoins, nous allâmes de l'avant et arrivâmes à Weir. Là, nous allâmes voir Thomas Burr. De là, nous allâmes à Huntington, où j'avais des parents. En ce lieu, un grand spoil astérisque avait été fait aux amis, c'était un temps de grande persécution. Nous allâmes voir un ami à Godmanchester, dont la maison avait été cruellement pillée pour s'être réunie. Nous passâmes à Yves, où nous restâmes pour leur réunion du premier jour, qui était très grande, et les amis ordonnèrent qu'elle se tînt dans une maison extérieure, appartenant à Tobias Rodmith, bien qu'il eût dû, selon le tour, en être autrement ce jour-là. Ici les informateurs nous manquèrent, bien qu'ils eussent l'intention de nous prendre, mais ils avaient été mal informés du lieu de la réunion, et nous fûmes préservés de leurs mains. De là nous allâmes à Stamford, dans le Lincolnshire, chez William Collingworth, où j'avais auparavant eu une réunion, et à Oakham chez Joseph Holt. De là nous continuâmes jusqu'à Long Clawson, dans la vallée de Beave, et comme nous descendions la colline à pied, il me vint à l'esprit qu'en ce lieu je rencontrerais l'épreuve que j'avais prévue auparavant, toutefois je me livrais au service auquel j'étais appelé. Astérisque spoil consiste à saisir des biens en lieu et place d'une amende non payée en espèces. Le terme vient des dépouilles de guerre. Les soldats s'enrôlaient souvent dans une armée afin de pouvoir s'emparer des biens de la population conquis à mesure que l'armée avançait sur le territoire de l'ennemi. Il est aussi mentionné dans la version King James d'Hébreux 10:34. Nous arrivâmes chez un ami nommé Edward Allam, où nous logeâmes cette nuit-là, et des amis vinrent nous voir et nous prièrent de rester pour une réunion avec eux le lendemain, mais je les interrogeai sur leur situation, s'ils étaient tranquilles. Car j'étais sûr que nous serions troublés, et pourtant je n'osais refuser une réunion avec eux, gardant mes préoccupations pour moi. Ils me dirent qu'ils n'avaient encore eu aucun trouble, mais que le prêtre les avait menacés dernièrement. Toutefois nous convînmes d'avoir une réunion le lendemain, et je leur dis qu'il pourrait se faire qu'ils fussent amendés de 20 livres à cause de moi. Ils répondirent « Si vous osez, nous oserons », ainsi ce fut résolu. Cette nuit-là, dans mon sommeil, le Seigneur me montra la réunion dans la maison de réunion, et me fit voir une troupe de grands chiens entrer et se jeter sur nous, se dresser sur nous, leurs pattes de devant sur nos épaules, comme s'ils voulaient nous frapper d'une grande peur. L'un semblait être sur moi, et avait pris mon bras gauche dans sa gueule, mais je levai ma main droite et le renversai, et tous ils tombèrent et s'en allèrent, et nous eûmes ensuite une bonne réunion, et nous nous regardâmes les uns les autres pour voir si quelqu'un était blessé, et nul n'avait même la peau entamée, ainsi nous nous séparâmes. Le lendemain, avant que la réunion ne fût rassemblée, dès que je fus en vue de la porte de la maison de réunion, je vis le prêtre et les agents de la ville avec deux informateurs en manteau de soldats s'y rendre, et je vis qu'ils pressaient pour entrer dans la maison de réunion, au point que je craigne qu'ils n'y entrent avant moi et ne m'en empêchent. Mais je me hâtai autant que je pus, me frayai un passage dans la foule et entrai avant le prêtre et les agents. Peu après, ils entrèrent et se mirent à prendre les noms, mais ils étaient si confondus qu'on remarqua qu'ils demandaient à des gens de leur propre ville leur nom, bien qu'ils les connussent assez bien. Au bout d'un temps, la puissance du Seigneur s'éleva en moi, et m'agenouillant, je mis en prière, ainsi ma main droite fut levée, et ils tombèrent et s'enfuirent hors de la réunion. Le prêtre et le constable montèrent à cheval et allèrent à environ 4000 chercher un juge, qu'ils ramenèrent avec eux à la réunion, bien qu'elle fût terminée avant leur retour. Les informateurs, grâce au secours qu'ils avaient obtenu, nous retinrent jusqu'à l'arrivée du juge et du prêtre, ainsi nous restâmes tous assis en silence. Alors le juge demanda « Que faisions-nous là ?» Et après quelques pauses, je me levai, m'avançai vers lui et lui dis que nous étions là par obéissance au Seigneur, pour l'attendre et l'adorer selon sa propre volonté en esprit et en vérité, et non par mépris de l'autorité, et que bien que certains d'entre nous eussent femmes et enfants, et quelques biens en ce monde à perdre, si le Seigneur voulait le permettre, nous n'osions pourtant faire autrement que ce que nous faisions, ou à peu près. Il me demanda mon nom et où j'habitais ce que je lui dis. Alors il poursuivit et prit les noms de toute la réunion, et me condamna à 20 livres d'amende pour avoir prêché, et les autres à 5 shillings chacun pour être venu écouter. C'était vers le temps appelé la Miété, et vers le temps appelé la Saint-Michel. Après cela, il envoya un mandat par l'informateur au juge Gilbert de Loca, et celui-ci donna son mandat au constable pour saisir chez moi pour 20 livres. La nuit avant qu'il vienne saisir mes biens, j'étais couché dans mon lit, et une grande épreuve tomba sur moi. J'attendis de voir à quoi cela aboutirait, et comme cela augmentait en moi, je pensai que je marchais sur un lieu d'un verre très fin, et je vis venir une tempête avec un vent très fort, sur quoi je résolus de lui tenir tête, et je me plaçai comme pour tenir ferme et ne pas être ébranlé. Mais la tempête vint sur moi et m'emporta, pourtant j'étais rempli de la puissance de Dieu. Quand ce fut passé, je considérai cette épreuve, et il me vint à l'esprit qu'elle ne m'était pas venue pour rien, car je pensais que le Seigneur avait quelque chose à me faire faire, et je le sentis très doucement avec moi, et je dis en mon cœur, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Alors la parole du Seigneur s'éleva dans mon cœur, disant, « Vends tout ce que tu as. » Après cela, je me rendormis, et le lendemain matin j'allai à la réunion trimestrielle à Tupton. Quand j'y arrivai, j'entendis que deux manteaux rouges étaient montés à Moniage pour saisir mes biens, et la rumeur était que tout ce que j'avais devait m'être pris pour avoir prêché l'Évangile éternel, car c'était mon crime, et rien d'autre, loué soit le Tout-Puissant à jamais. J'informai la réunion de l'épreuve que j'avais eue dans mon lit la nuit précédente, et de la manière dont la parole du Seigneur m'était venue, me disant de tout vendre, et je demandai le sentiment de la réunion, devais-je vendre tout effectivement, ou tout abandonner et laisser tout aller patiemment et librement pour la vérité, si le Seigneur voulait me mettre à l'épreuve par la perte de tout. Et le sentiment de la réunion fut que je devais tout remettre entre les mains du Seigneur. En ce temps-là, je devais de l'argent tant à des amis qu'à d'autres, ce qui m'aurait rendu difficile de payer soudainement sans vendre ce que j'avais en ma possession, car on me devait beaucoup, mais je ne pouvais l'obtenir tout d'un coup, quoi qu'il m'arrivât. Mais je devais surtout aux amis, et ils étaient à la réunion trimestrielle, et vinrent à moi, et furent très tendres envers moi, et m'encouragèrent à tout abandonner librement, et si tout s'en allait, ils seraient contents de prendre les choses comme elles étaient, ou comme cela tomberait. Ce fut un jour précieux, et la puissance du Seigneur était au-dessus de toutes les puissances de la terre, et je fus fortifié, louange à notre Dieu à jamais. Je rentrai chez moi cette nuit-là, et les deux informateurs étaient venus en ville avec un mandat du juge Gilbert, celui-ci ayant reçu certification au sujet de cette réunion à Clausen, par le dit listé, appelé juge, qui depuis n'a jamais prospéré, mais s'est consumé et est tombé en basse condition, devenant pauvre. Les informateurs envoyèrent chercher le constable, qui apprit que je n'avais pas été à la maison la nuit précédente, sur quoi il refusa de venir jusqu'au lendemain matin. Mais le lendemain, matin de bonne heure, j'envoyai chercher un homme de l'Église d'Angleterre à qui je devais 10 livres, il vint et je lui remis des biens à vendre afin qu'il se paye, et qu'il me rende le surplus. Il les prit et fut très content de voir mon honnête souci pour lui. À un autre homme je devais 3 livres, mais il se trouva qu'il avait une de mes vaches dans son pré, ainsi je lui envoyai dire de la garder pour son argent, ou de la vendre, se payer et me rendre le surplus. Puis ce que je devais aux amis, je n'en étais pas inquiet, voyant combien ils avaient été bons et tendres, et qu'ils renonçaient librement à ce qui leur était dû. Peu après que cela fut fait, je vis le constable entrer dans la maison d'un voisin, chez qui j'allais lui parler, mais, pauvre homme, il était plein de troubles et voulait conseil. Quand il me vit, il me dit, « Vous vous êtes mis dans des ennuis, et moi aussi, » et il était très emporté. « Mon homme, dis-je, je n'ai fait tort à personne, je ne voudrais pas que vous soyez troublé, car si vous voulez saisir, vous le pouvez, mais si vous voulez prendre mon conseil, je vous dirai ce que je voudrais que vous fassiez. » Il demanda, « Que voudriez-vous que je fasse ?» Je dis, « Renvoyez ces hommes, et dites-leur que si vous avez besoin d'aide, vous pouvez appeler vos voisins. » Il fut content de mon avis et monta à l'auberge, mais avant qu'il ne me quitte, les informateurs arrivèrent, et ils me connaissaient, et demandèrent si j'étais l'homme visé par l'ordonnance. « Oui, dis-je, comment va le juge listé ? » Je pensais qu'il eût été plus modéré que de pousser la loi contre moi jusque-là. L'un d'eux dit, « Vous êtes un peuple qui n'obéira à aucune loi. » Je sentis la puissance du Seigneur s'élever en moi, et je lui dis, « Que pensez-vous, sommes-nous des enfants de Dieu, ou des enfants du diable ? Si c'est ces derniers, vous pouvez prendre courage pour faire comme vous faites, bien que je susse qu'ils ne le devraient pas, même si c'était le cas, mais si vous pensez que nous sommes des enfants de Dieu, comment osez-vous ? Mais une chose, laissez-moi vous dire, l'Écriture dit que celui qui est né selon la chair persécute celui qui est né selon l'esprit. Maintenant dis-je, voilà votre marque, et de plus, il est dit que c'est pour eux ainsi, évident de perdition, mais pour vous de salut, et cela de Dieu. » La puissance du Seigneur se manifestant avec ces paroles, ils se turent tous deux et s'en allèrent à l'auberge, et le constable les suivit aussi. Je restai un peu épesé en mon esprit ce que je devais faire, alors je sentis la liberté d'aller aussi à l'auberge, et j'y trouvai les informateurs en train de manger, et je parlai avec eux m'enquérant des amis à Clausen, comment ils se tenaient. Et si quelqu'un avait fléchi, et ils me dirent qu'en effet les amis souffraient profondément. Le constable et quelques voisins étaient dans une autre pièce et m'appelèrent à venir vers eux, mais quand j'arrivai, ils me dirent « Êtes-vous si fou que de rester avec vos ennemis ? » Ah, dis-je, nous devons aimer nos ennemis, faire du bien à ceux qui nous haïssent, et prier pour ceux qui nous persécutent et nous maltraitent. Ah, dirent-ils, c'est bon pour vous si vous pouvez faire ainsi, car nous ne le pouvons pas. Les informateurs quittèrent le constable et lui dirent qu'ils croyaient que j'étais un homme honnête, et qu'ils voudraient qu'il me fût aussi favorable qu'il le pouvait, disant, ce ne serait pas grand-chose si les hommes de la ville le payaient pour lui, car, dirent-ils, nous avons entendu en remontant le pays qu'il était un homme honnête. Puis ils supplièrent le constable de leur donner un peu d'argent pour les aider à rentrer chez eux, car ils avaient plus de 30 000 à faire, sur quoi il leur donna 6 pence. Quand ils furent partis, le constable descendit, et je pensais qu'il me suivrait dans ma maison, mais il resta dans la rue, la tête baissée très tristement. Quelques habitants de la ville offrirent de payer l'argent, et de le reprendre ensuite à mesure que je pourrais le rembourser, mais je ne pouvais le faire en liberté. Toutefois, pendant que j'étais à l'auberge, quelques-unes des principales femmes de la ville vinrent à ma maison, et n'y trouvant personne d'autre que ma femme, elles, contre son gré, prirent violemment tout le meilleur des biens et les emportèrent, afin de les sauver pour nous, dans la maison d'un voisin. Quand je rentrai et vis les biens disparus, j'en fus peiné et demandai à ma femme comment cela s'était passé. Elle me dit qu'elle n'avait pu l'empêcher et qu'elle ne pouvait me dire où ils avaient été portés, car elle le ferait, qu'elle approuvât ou non. Je sortis et invitai le constable à entrer, mais il me pria de ne pas le faire entrer chez moi et de fermer la porte. Je lui répondis, non, car je n'ai fait aucun mal, et je ne craignais aucun homme, et d'ailleurs je n'étais pas en liberté de fermer mes portes. Alors il entra et s'assit dans un grand trouble, la tête baissée. Après quelque temps, nous eûmes de la nourriture chaude prête pour le dîner, et nous l'invitâmes à dîner. Il se ressaisit et mangea avec nous, et après le dîner il alla s'asseoir de nouveau comme auparavant, dans un grand trouble. Enfin je commençai à me demander que faire de lui, car aucune voie ne s'ouvrait à lui pour savoir comment procéder, et il lui était difficile de saisir mes biens en exécution, car il semblait confus au point d'en être arrêté. Alors je lui parlai et lui dis qu'il pouvait écrire quels biens étaient ici et dans quel état, et s'il ne les emportait pas, je ne les déplacerais pas. Ensuite il pourrait en annoncer la vente au Market Cross Astérisque et à la Stipelouse aussi, et si quelqu'un voulait les acheter, il pourrait venir chez moi et les acheter. Astérisque un Market Cross était une croix placée à un carrefour principal, sur laquelle on affichait des avis pour alerter la population. Cette proposition lui plut, et il fit ainsi, mais quand les gens entendirent ces annonces, ils souhaitèrent du mal à quiconque en achèterait, si bien que rien ne fut vendu. Peu après, les sessions du tribunal vinrent en ville, et le constable s'y rendit pour rencontrer Sir Henry, Avery et le juge Gilbert de Loca, qui avait accordé le mandat. Il leur offrit de leur remettre son mandat et son état des biens qu'il avait saisis, leur disant qu'il ne parvenait pas à les vendre, mais le juge Gilbert lui dit « Si vous ne pouvez les vendre dans le Derbyshire, vous devez les porter dans le Yorkshire. » « Non, répondit le juge Avery, à quoi bon faire cela? Vous avez accordé votre mandat, et vous avez accompli votre devoir, et mon garçon, dit-il au constable, ayant fait ton devoir et ne pouvant les vendre, tu peux rentrer chez toi et laisser les choses comme elles sont. » Il était juge en chef de ce comté, et aimait les amis honnêtes, mais haïssait les hypocrites, et il était très opposé aux prêtres orgueilleux. Le comte de Devonshire et sa dame lui avaient aussi auparavant conseillé d'être indulgent envers moi, comme il le fut toujours par la suite. Plus tard, lorsque j'étais prisonnier, il saisit chaque occasion d'encouragement jusqu'à ce qu'il me fasse sortir à nouveau. Quand le roi Jacques publia sa proclamation, dont certains auraient voulu m'empêcher de tirer bénéfice, il parla au juge et obtint ma libération. Le constable rentra chez lui et, avec grande joie, me raconta ce qui s'était passé, qu'il s'en était si bien tiré, et que mes biens avaient été sauvés. Ainsi le Seigneur me délivra, défendit et plaida ma cause au temps du besoin. Ses miséricordes furent grandes pour moi en ce temps-là. Il me remplit du Saint-Esprit ce jour où les informateurs furent avec moi, de sorte que parfois j'étais prêt à dire que, si j'avais eu une maison pleine de biens à perdre, je pourrais m'en séparer librement pour l'amour de la vérité. Car il nous est donné, pour le Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui, et tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus doivent souffrir persécution. C'est un grand sujet de joie quand nous sommes jugés dignes de souffrir pour lui, et celui qui perd quelque chose pour lui recevra le centuple en cette vie, et dans le monde à venir la vie éternelle. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui, mais si nous le renions, lui aussi nous reniera. Ils sont comptés heureux, ceux qui endurent, car celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé, c'est pourquoi nous sommes exhortés à saisir la vie éternelle et à la tenir fermement, de peur que quelqu'un ne prenne notre couronne, qu'il donne gratuitement à tous ceux qui aiment son apparition. Après ces sessions, je fus condamné plusieurs fois à des amendes, 20 livres chaque fois, et les constables prirent la même voie que le premier, et allèrent toujours trouver le juge Avery, et lui rendirent leur mandat, qu'ils recevaient, puis ils déchargeaient les agents et les renvoyaient chez eux. Ainsi le Seigneur me préserva des spoliateurs, béni soit son nom. Il ne permit pas aux ennemis de la vérité d'aller plus loin, ni de faire plus que ce qu'il plaisait à donner à son peuple la force de supporter, avec consolation et joie, car il a été mon roc et mon appui, oui, ma part tant pour l'âme que pour le corps. Il m'a aidé dans toutes mes nécessités, et s'est tenu près de moi pour garder ma tête au-dessus de toutes les eaux et tempêtes. Il est mon salut et mon trésor qui ne se défera jamais, louange lui soit rendue à jamais. Après cela, j'allai à une réunion dans une ville appelée Whittington. À cette réunion vint le maire de Chesterfield, accompagné de deux hommes qui l'assistaient, mais le prêtre de la ville, comme on nous le dit, envoya deux informateurs qui suivirent le maire dans la réunion, bien qu'il ne sût pas, à ce que j'ai pu entendre, ce qu'ils étaient ni qui ils étaient. Le maire vint simplement et innocemment pour entendre la vérité proclamée. Je prêchai quand il entra et se tint tout près de moi. J'expliquais au peuple la parabole du souper, Luc 14, 15-24, et comment ceux qui avaient été invités s'excusèrent, mais le serviteur fut envoyé de nouveau dans les rues et les ruelles de la ville pour y amener les pauvres, les estropiés, les boiteux et les aveugles au souper. Et je montrai qui étaient ces pauvres, boiteux, aveugles et estropiés, et comment ceux qui étaient blessés et gisaient boiteux et malades venaient au souper. Le maire me demanda, comment étaient-ils blessés? Sans m'arrêter, je lui dis qu'ils étaient les pauvres en esprit qui reçoivent le royaume, et les blessés en esprit, disant, « L'esprit d'un homme soutiendra ses infirmités, mais un esprit blessé, qui peut le porter ?» Et je continuais de parler. La puissance de Dieu perça puissamment dans la réunion, au point que le maire s'écria, « C'est vrai, quand j'eus terminé, il sortit et pleura amèrement, et demanda à Francis Davenport, l'ami de la maison où se tenait la réunion, de lui montrer où il pourrait s'étendre un moment. » Il le conduisit dans une chambre, où il s'allongea en pleurant beaucoup. Il fut très affectueux envers moi tout le reste de ses jours, bien que, pauvre âme, il fût très riche de richesses mondaines, et que ce fut trop dur pour lui de se tenir dans une profession publique de la vérité avec nous, mais il garda un souci dans son esprit jusqu'au jour de sa mort. Mais bien que le maire, je crois, n'y pensait à nous faire du mal, ni ne nous en fît, pourtant les lois étaient telles que je fus de nouveau condamné à 20 livres pour avoir prêché, et l'ami de la maison fut condamné à 20 livres aussi. Car les deux hommes que le prêtre de la ville avait envoyés à notre réunion, comme dit plus haut, allèrent la dénoncer comme étant un conventicle. Astérisque, astérisque, un conventicle était une réunion séditieuse de personnes menaçant la paix du royaume, définie par la loi comme tout groupe de 5 personnes ou plus, âgées de plus de 16 ans, se réunissant, où un service religieux différait de la prière commune et de la liturgie de l'Église d'Angleterre. Le juge Barton, de Dranfield, sans me faire comparaître devant lui pour entendre mes accusateurs face à face, selon les anciennes lois de la nation, envoya ses mandats pour saisir nos biens, et ils prirent le bétail et les chevaux de Francis Davenport, et allèrent à la foire de Fleshly et en vendirent la plupart avant que Francis et moi puissions y arriver. Mais après que nous fûmes arrivés à la foire et leur eûmes dit comment ils nous avaient pris les biens, personne ne voulut en acheter davantage. Un homme qui avait acheté ignoramment une partie du bétail fut très troublé et dit que s'il l'avait su, il ne l'aurait pas acheté. Les agents de notre ville suivirent le précédent et prirent la même méthode que le constable précédent. Ils emportèrent quelques biens de chez moi, mais ne purent en vendre aucun, sur quoi le constable en informa le juge Avery, qui lui dit de rentrer chez lui et de laisser les choses comme elles étaient. Ainsi ce juge se tint dans la brèche et, par faveur envers moi, empêcha que mes biens fussent vendus, fois après fois. Par ce moyen, je fus merveilleusement préservé d'être pillé, et les biens qu'il avait pris hors de ma maison furent rendus après les sessions. En vérité, mes voisins me témoignèrent beaucoup d'amour et étaient fort réticents à me voir blessé en aucun temps, de sorte que le Seigneur fut merveilleusement bon, tant envers moi qu'envers ma famille, et il lui plut d'agir pour moi de temps en temps, gloire à son grand et honorable nom à jamais. Ainsi je ne manquai jamais d'un lit pour m'y coucher, ni de lit pour mes amis, ni de nourriture à manger, ni de vêtements à mettre. Vers ce temps-là j'allai dans le Cheshire, et j'eus une réunion à Chester, où je rencontrai Roger Haddock, Eileen Law et Mary Worrell, dont je goûtai la compagnie. Il y avait plusieurs hommes qui avaient reçu la vérité en ce lieu et qui pourtant, par infidélité, s'en étaient détournés. Quand j'en appris la nouvelle, j'en fus peiné, et je retournai à Chester, car je n'eus aucun repos dans mon esprit durant 2 jours et 2 nuits. J'y arrivai le 6e jour de la semaine, et le soir j'échangeai quelques mots au souper avec un apothicaire et sa femme. Le lendemain, je parcourus tout le marché, avec une grande préoccupation dans l'esprit, mais je n'eus pas l'occasion, dans la rue, de parler au peuple. Elle apothicaire me conduisit chez lui, où lui et sa femme furent tous deux très amicaux. Il me dit aussi que l'infidélité de certains dans cette ville les avait retardés, sinon ils auraient été avec nous auparavant. Je parlai avec eux, puis nous nous séparâmes amicalement. Le premier jour, je me rendis à la réunion chez Richard Smith, je m'assis et restai une heure ou plus avant que la réunion fût entièrement rassemblée. Puis je me levai et m'approchai des amis, car c'était une très grande pièce, et le Seigneur, dans sa miséricorde, voulut bien nous donner une réunion précieuse, et il y eut chez beaucoup une grande contrition de cœur avec beaucoup de larmes. Vers la fin de cette réunion, Richard Smith parla très tendrement et souhaita que ceux qui avaient été infidèles amendassent leur conduite et à l'avenir fissent mieux. Pourtant, pauvre homme, malgré cette exhortation lui-même, après quelque temps, fit pire qu'auparavant car il écrivit contre les amis et la bienheureuse vérité. Toutefois, lui et quelques autres qui s'opposèrent à la vérité moururent peu après. Le roi Charles Yi donna la liberté à tel presbytérien qui le voulait de faire agréer des lieux pour s'y réunir et ils obtinrent une grande grange à Ashford-in-the-Wood. Il m'arriva d'être en ville un jour, et je vis leur réunion se disperser. Il y eut dans la rue qu'une abondance de gens, et mon esprit fut troublé de voir tant de pauvres gens entraînés, par ce que j'avais éprouvé par l'Écriture et trouvés être de faux apôtres. Dans les 3 jours, la parole du Seigneur vint à moi, me disant d'aller à cette réunion le prochain 5e jour, mais il me fut très difficile de consentir à y aller, car il y en avait beaucoup là que j'aimais beaucoup, et que je croyais m'aimer. Mais le Seigneur fut bon et m'encouragea, sur quoi j'informai un ancien ami de la préoccupation qui était sur moi, et lui aussi m'encouragea. Le matin du 5e jour, un ami vint me voir, et nous allâmes à la réunion où le prêtre prêchait, lui qui prêchait une fausse doctrine. Mon message à l'assemblée fut que leur réunion tomberait et s'effondrerait avant longtemps, comme cela arriva quelques semaines plus tard, et depuis, il n'y a plus jamais eu de réunion dans cette grange, bien qu'ils y eussent installé une chaire et de beaux sièges. Quand le prêtre eut terminé, je demandai le privilège de l'évangile, qui était « Si quelque chose est révélé à celui qui est assis à côté, qu'il parle et que les autres se taisent. » Mais avant que j'eusse dit ce que j'avais à dire, ils se ruèrent violemment sur moi, m'injuriant et me traînant dehors. Le prêtre pâlit et s'en alla, bien que je l'eusse accusé de fausse doctrine. Quand j'eus été traîné dehors, je déclarai au peuple, dans la puissance de Dieu, contre leurs prêtres et leur culte, mais personne ne me répondit pour défendre leur manière. Quand j'eus fini, je m'en allai, et bientôt je vis la parole du Seigneur s'accomplir, car leur réunion ne se trouvait plus dans tout le pays, parce qu'ils prirent la fuite et se cachèrent en ces temps de souffrance. Un autre jour, j'étais au marché de Wirksworth, et les gens juraient d'une manière effroyable, mon esprit en fut profondément attristé, et la parole du Seigneur vint à moi, disant « Va à la croix du marché et déclare-toi contre la méchanceté du peuple ». J'étais réticent à y aller, car je savais que beaucoup d'entre eux étaient des gens grossiers, méchants, ivres et jurants. De plus, je ne savais pas s'ils ne me mettraient pas en pièces, et c'est pourquoi je pris mon cheval et rentrai chez moi. Mais je fus suivi de vifs reproches et de justes jugements de la part du Seigneur, ce qui me plongea dans une profonde tristesse, et je n'attendis plus le renouvellement de cette préoccupation. Mais la fois suivante que j'y allais, étant de nouveau au marché, une épreuve pesa lourdement sur moi, aller avertir le peuple. Alors j'y allai, sans m'arrêter davantage à y réfléchir, et dans la puissance céleste de Dieu je déclarai la vérité et rendis témoignage contre leur grande méchanceté, au point que les gens furent fortement touchés, pleurèrent à haute voix, et aucun homme n'eut le pouvoir de me faire du mal. Je m'arrêtai 2 fois, m'assis, et j'attendis encore le mouvement nouveau de la vie, et le Seigneur me permit de me relever. Quand j'eus soulagé mon esprit, je repartis en paix et dans une grande joie. Après être revenu à mon auberge, certains me suivirent, mais il s'éleva dans mon cœur de sortir de la ville, ce que je fis. Après mon départ, j'entendis dire qu'un certain juge l'eau était venu en ville et avait envoyé à mon auberge pour qu'on m'amenât devant lui, ayant l'intention de m'envoyer en prison, mais le Seigneur me délivra et me sauva des mains des méchants, car ce juge était un grand persécuteur des amis. Ainsi le Seigneur était avec moi et me gardait partout où j'allais. Que mon âme dans la vie loue son saint nom. À cette époque, j'allais beaucoup aux réunions, tout autour, le Seigneur m'aidant, sans qui je ne pouvais rien faire, car en lui habite toute plénitude, et beaucoup furent convaincus, et nos réunions devinrent de plus en plus grandes, et beaucoup se montrèrent fidèles, mais les prêtres s'enrageaient fort, car je voyageais autant que je le pouvais, tout en poursuivant aussi mon métier. Ma famille grandissait également, et mon souci était grand de payer tout ce que je devais à chacun, de sorte que j'étais souvent contraint de chevaucher de nombreux milles, après les réunions pour aller à mes marchés le 2e jour de la semaine, et le Seigneur me bénissait en tout. Beaucoup d'amis vinrent me rendre visite chez moi, car plus je voyageais et travaillais dans l'œuvre et le service du Seigneur, plus je faisais connaissance avec des amis au loin. Et j'allais souvent à la réunion annuelle à Londres, et là je m'informais de la manière dont la vérité se répandait de nation en nation. J'étais heureux que des amis vinssent avec amour pour me voir, et j'allais, dans l'amour de Dieu, visiter ceux qui m'avaient visité. Les gens de notre ville pensaient qu'ils me détruiraient par leurs amendes, comme je l'entendis, s'attendant à me voir échouer dans le monde. Mais lorsqu'il n'en fut pas ainsi, mais plutôt le contraire, ils changèrent d'avis et dirent que les Quakers, comme ils les appelaient, me donnaient de l'argent pour prêcher. J'endurai patiemment bien d'autres accusations et calomnies semblables en ces jours-là. Ainsi le serpent subtil, par ses rapports méchants et mensongers, s'efforçait d'entraver la prospérité de la pure vérité. Pourtant je ne vis d'autre voie que de remettre ma cause, et la cause de la vérité, entre les mains du Seigneur, afin qu'il la plaide comme il le jugerait bon. Les prêtres, voyant que les magistrats n'aimaient pas nous persécuter, mirent leurs têtes ensemble et firent délivrer un mandat contre moi et deux autres amis. Il se trouva que j'étais parti pour York et ses contrées, au service de la vérité, et je ne rentrai chez moi qu'au moment où le mandat allait presque expirer. Mais les deux autres amis furent arrêtés et envoyés en prison à Derby, où ils furent longtemps détenus. Après cela, ils me citèrent devant la cour des évêques, je m'y rendis, et lorsque je fus appelé, je m'avançai vers le grand prêtre et les autres, l'un d'eux s'appelait le registre, du nom de Nichol de Litchfield. Lorsque je m'approchai de lui, il me regarda d'un air envieux, me disant « Comment êtes-vous ici ?» Je pensais vous avoir eu en prison avant maintenant, puis il dit « Je vous mettrai en prison ». Alors je dis « J'ai lu que le diable jettera quelques-uns de vous en prison ». Mais je n'ai jamais lu qu'un prophète, un apôtre ou un serviteur de Jésus-Christ ait mis un homme en prison pour une question de conscience. Mais Nichol répondit encore, « Je vous mettrai en prison. » Alors je dis, « Vous vous joindrez au diable. Je vous prie, M. Wilson, dit-il au grand prêtre, le même qui était venu à notre réunion pour nous persécuter après avoir été à ce qu'il appelait son sacrement, admonestez-le. Je m'attendais à quelques instructions et conseils, mais tout ce qu'il dit fut, « Je vous admoneste de venir à l'église, j'admoneste que vous veniez à l'église. » J'étais stupéfait de leur folie et de leur aveuglement, car je m'attendais qu'ils eussent travaillé à me montrer que c'était mon devoir de venir à l'église, ou que j'étais dans l'erreur, mais voyant qu'il ne fut dit autre chose que « Je vous admoneste » trois fois, pour ouvrir la voie à leur cour méchante afin de poursuivre la persécution et d'obtenir de l'argent, je lui dis, « Je vous prie, est-ce pour le bien de mon âme que vous m'admonestez, ou pour l'amour de mon argent ?» Nichol dit, « Moi, c'est par amour de votre argent, et lui, c'est pour le bien de votre âme. » À cela, les gens éclatèrent de rire, car ils virent que c'était l'argent, plus que le bien des âmes, qu'ils visaient dans cette cour méchante. Alors la puissance du Seigneur s'éleva dans mon cœur, et j'allais déclarer contre eux, car je voyais que leur méchanceté en leur haute place était très grande, et procédait d'un esprit mauvais, cruel, persécuteur et égoïste, mais ils crièrent « Emmenez-le », sur quoi je fus violemment poussé hors de leur cour. Au tribunal suivant, je fus cité de nouveau et, entre-temps, sommé de comparaître aux assises à Derby. Le bailli de notre district me dit que nous devions aller chez le greffier des assises. Je lui dis que nous ne le ferions pas, car il était inutile d'aller à lui à moins de lui donner de l'argent. Alors il dit « Vous devez comparaître devant le juge ». J'y parus disposé, et je lui dis que cela pourrait être bon de lui faire savoir comment nous étions maltraités par lui et par ses hommes, les baillis, car nous sommes traînés aux assises et aux sessions parce que nous ne pouvons pas vous donner de l'argent. Tandis que les gens d'autres opinions, qui peuvent vous donner de l'argent, vous les laissez chez eux. Oui, dis-je, de ma propre connaissance, vous en avez laissé un chez lui pour un groat. Astérisque, nous étions beaucoup d'amis ensemble, et quand il m'entendit si disposé à comparaître devant le juge et à révéler comment il profitait du peuple de la campagne, il me dit de rentrer chez moi, si je le voulais. Je dis que je n'irais que si tous mes amis allaient avec moi. Il me dit de les emmener, et nous repartîmes chez nous, et ces hommes avides ne purent pas nous dépouiller. Astérisque Groat, ancienne monnaie anglaise valant 4 pence, ayant été cité à comparaître de nouveau le lendemain devant la cour spirituelle ainsi appelée, mais c'était plutôt une cour méchante, à Bakewell, nous y allâmes trois. Je venais un jour de la cour temporelle, et j'allais un autre jour à la cour spirituelle, mais ils manquèrent tous leur principal objectif à mon égard, car ils étaient de l'avis de Félix, plus ils me tourmentaient souvent, pensant tirer de l'argent de moi. Quand nous arrivâmes, la cour s'était déplacée à l'auberge pour aller dîner, après quoi ils tinrent leur cour dans une chambre, où nous comparûmes, mais Nichol dit qu'il ne prendrait pas ma présence pour une comparution. Je lui demandai pourquoi, disant que n'importe quel moment de la journée tant que la cour siégeait convenait. Le prêtre répondit, « Vous êtes un peuple qui ne veut pas obéir aux lois du roi. » Je lui demandai alors, « Le roi est-il votre gouverneur ?» À cela il se tut, et dit à un officier de m'emmener, mais je restai jusqu'à ce que les autres amis aient fini, puis je m'en allai. Après cela, je voyageais avec peine et allais à des réunions en beaucoup d'endroits. Et un jour, tandis que je rentrais, ayant été dans le Leicestershire et le Nottinghamshire, passant par Derby, William Fallowfield étant avec moi, une lettre d'Abraham Maury de Lincoln me parvint me priant de parler à une grande dame qui s'apprêtait à faire mettre en prison certains amis, ses fermiers, au sujet de la dîme. J'allai la voir, et après quelques conversations, elle devint très calme et modérée, et m'ordonna d'aller trouver son intendant à environ 8 000 de Derby. Ainsi William Fallowfield me quitta. Je rentrai de Derby chez moi, et le lendemain j'allai chez l'intendant, mais il était parti à Brasson. J'y allai et il était parti au manoir. Je le fis demander à mon auberge, mais il ne voulut pas venir. Alors j'allai à lui au manoir, où se trouvaient deux prêtres et le maître de la maison, et quelques personnes de Derby qui tous me connaissaient. J'éloignai l'intendant de dans la salle, où j'eus une discussion avec lui, lui rapportant l'intention de sa maîtresse, et je le quittai en très bons termes, après quoi je n'entendis plus parler d'amis devant aller à la prison de Lincoln. Je pressai alors le pas pour rentrer auprès de ma famille, bien qu'il négât et que le vent soufflât fort, mais lorsque j'étais sur la lande de Brasson, la parole du Seigneur vint à moi, me disant d'aller à Oldwalk et de les aider à s'en sortir. J'y allai, n'osant pas refuser les instructions du Seigneur. Il n'y avait dans cette ville ni prêtre ni boutique de prêtre, et plusieurs étaient en peine au sujet de la religion. J'avais quelques connaissances de John Buston chez qui je me rendis, et il me fit bon accueil. Je lui fis savoir que je désirais tenir une réunion, et ils en informèrent la ville, et à l'heure fixée pour la réunion, la maison était pleine. Je pus parler comme dans la capacité du Saint-Esprit de Dieu, et je fus puissamment porté pendant environ 4 heures. La réunion se termina avant midi, mais certains restèrent jusqu'à 2 heures, et l'homme et sa femme furent convaincus, ainsi que leurs deux parents, fut aussi convaincu le serviteur, qui depuis a un beau témoignage parmi les amis, et 20 autres de la ville. John Buston dit qu'il croyait que toute la ville était convaincue. Beaucoup vinrent aux réunions, certains jusqu'à leur mort, certains jusqu'à leur mariage, certains partirent en Amérique et s'y comportèrent bien comme j'entends. J'eus aussi à peu près au même moment des réunions à Newman-les-Millen, et ce fut une excellente œuvre de conviction en ces jours-là, certains de ceux-là sont encore en vie aujourd'hui, toujours fidèles à la vérité. Par son propre bras droit, le Seigneur fit bien des choses indicibles en beaucoup d'autres lieux, là où le Seigneur me l'ordonna et m'accompagna. Beaucoup furent convaincus, oui, je crois que ce furent des centaines qui vinrent aux réunions, ce qui mit le diable en colère, et je fus jeté en prison. Le journal de John Gratton, suite le but de ce site web, est de montrer comment devenir libre du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.